Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, 17h30 GMT, Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 1er mars 2017. John Linden en direct de Washington. Au sommaire ce soir, en RDC, l'ONU accuse dans un rapport l'armée et la police d'avoir délibérément tué des civils. Accusation partisane, répond le gouvernement. Climat tendu en N'Djamena à la suite de la condamnation hier des 69 étudiants. Au Gabon, le dialogue inclusif commence à prendre forme, mais l'opposant Jinping refuse la main tendue. Espoir et rêve, c'est sous ce signe que le président Donald Trump a placé son allocution hier devant les deux chambres du Congrès. Et puis, retrouvez Nicolas Pinot à la fin de ce journal pour les sports et Morgane Guiriec pour la Minute Éco. Tout d'abord, le journal. Une fois encore, bonsoir. Matinée tendue à N'Djamena entre les étudiants et la police suite à la condamnation hier de 69 étudiants à un mois de prison ferme pour outrage à l'autorité de l'État. Ils avaient perturbé une visite ministérielle alors que les universités sont en grogne contre la suppression des bourses. Tatiana Mosso.
La réaction de l'Union nationale des étudiants tchadiens ne s'est pas fait attendre. Réunis ce matin en Assemblée générale, ils ont voté pour la suspension des cours dans toutes les universités du pays pour exiger la libération des étudiants condamnés la veille. Dans la foulée, plusieurs groupes d'étudiants se sont rendus dans différents quartiers de N'Djamena pour faire sortir les élèves des salles de classe. La police est intervenue, les échauffourées ont fait au moins un mort et 18 blessés selon une source policière. Les 69 étudiants ont été condamnés suite à la visite sur un campus du ministre de l'Enseignement supérieur, Makaya Santaiso. Il a été hué par les étudiants qui ont lancé des pierres sur les voitures officielles. La police est intervenue pour les disperser de manière musclée avec des grenades lacrymogènes. Les étudiants tchadiens sont en colère contre les mesures d'austérité du gouvernement qui se sont traduites par la suppression de leurs bourses. Pour l'heure, le calme est revenu, mais le mouvement de grève est maintenu.
Au Togo, un manifestant est mort et plusieurs ont été blessés hier à Lomé, où des chauffeurs des taxis et taxis-motos protestaient contre la hausse des prix du carburant. La police avait dispersé des chauffeurs des taxis qui bloquaient plusieurs carrefours de la capitale pour protester contre la hausse d'environ 10% des prix à la pompe. Les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo de nouveau montrées du doigt dans un nouveau rapport. L'ONU accuse l'armée et la police d'avoir délibérément tué des civils en décembre dernier lors des manifestations contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Le gouvernement congolais rejette ces accusations, Jacques Aristide.
C'est un document de 24 pages du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC qui dit s'appuyer sur des preuves crédibles recueillies sur le terrain. Entre le 15 et le 31 décembre 2016, au moins 40 personnes ont été tuées et 147 autres blessées dans plusieurs villes du pays. Le rapport de l'ONU indique que la plupart des victimes étaient des civils non armés, blessés par balles, résultant d'un usage disproportionné de la force et de l'utilisation de balles réelles, en particulier par l'armée, dont les soldats de la garde républicaine et de la police militaire, qui ne sont ni équipés ni entraînés pour les opérations de gestion des foules. L'ONU signale également qu'à la même période, au moins 917 personnes ont été arrêtées par les agents de l'État. En réaction, la ministre congolaise des droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa, dit que l'accès aux camps militaires n'a pas été accordé aux membres de ce bureau onusien pour des raisons de sûreté de l'État et de secret défense, et de dénoncer ce qu'elle appelle la tendance partisane du rapport à vouloir charger par complaisance les forces de défense et de sécurité de la RDC, alors que la police est restée professionnelle, dit-elle.
La dépouille de l'opposant Étienne Tshisekedi, décédée le 1er février à Bruxelles, devrait être transportée le 11 mars en République démocratique du Congo. Son décès et les tergiversations ont bloqué l'application de l'accord de sortie de crise, conclu le 31 décembre entre le pouvoir et l'opposition. En Tunisie, 6 membres des forces de sécurité ont été inculpés dans l'enquête sur l'attentat de juin 2015 à Sousse, où 38 touristes avaient été tués. Ils seront jugés pour non-assistance à personne en danger. Claire Morin-Gibourg.
33 personnes, dont 6 membres des forces de sécurité, sont accusées de non-assistance à personne en danger. Les 6 agents font partie de 12 accusés laissés en liberté dans l'attente de leur procès, dont la date n'est pas encore fixée. Le porte-parole du pôle antiterroriste, Sofiane Seliti, a précisé que 14 accusés se trouvent en détention préventive et que 7 autres sont en cavale. Les chefs d'inculpation pour les 27 autres accusés n'ont pas été précisés. Cette annonce intervient alors que des auditions ont eu lieu ces dernières semaines devant la Cour royale de justice en Grande-Bretagne, pays qui a perdu 30 ressortissants dans l'attaque de Sousse. Dans ses conclusions, le juge Nicolas Lorenz-Smith a déclaré hier que la police tunisienne avait réagi de manière chaotique. Leur intervention a été au mieux désordonnée et au pire lâche. En janvier, l'avocat de 20 familles de victimes, Andrew Ritchie, avait déjà affirmé devant la Cour qu'un rapport tunisien remis au gouvernement britannique avait noté des failles dans la sécurité.
Toujours en Tunisie, c'est ce mercredi que l'interdiction des sacs plastiques dans les supermarchés est entrée en vigueur. La Tunisie est confrontée à une nette dégradation de son environnement ces dernières années. Le calendrier politique s'est accéléré mardi au Gabon avec la fin des préparatifs du dialogue politique voulu par le président Ali Bongo Ondimba après sa réélection contestée en 2016, une main tendue que refuse son rival Jean Ping. Réunis depuis une quinzaine de jours, la majorité et une partie de l'opposition ont bouclé les travaux d'un comité préparatoire paritaire pour organiser le dialogue inclusif et sans tabou que souhaite l'exécutif. 6 mois après les violences qui ont suivi le scrutin présidentiel du 27 août. Le gouvernement tanzanien a interdit à compter d'aujourd'hui toute importation, fabrication, vente et consommation d'alcool contenu dans des sacs en plastique, dans le double objectif de protéger la jeunesse et l'environnement. Des élections devraient être organisées dans les 3 mois au Lesotho après un vote de défiance mercredi du Parlement contre le Premier ministre Pakalita Musisili à la tête d'un fragile gouvernement de coalition. Selon la constitution du Lesotho, l'actuel Premier ministre a 3 jours pour donner sa démission et laisser son poste au leader de l'opposition, Monyane Moleleki. Le Lesotho traverse une profonde crise politique depuis un coup d'État manqué en juin 2014, qui avait débouché sur des élections en février 2015. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika souffle demain jeudi ses 80 bougies sur fond d'interrogations persistantes sur sa santé chancelante qui l'éloigne de la scène publique depuis des années.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Donald Trump a prononcé hier son premier discours devant les deux chambres du Congrès américain, une allocution qu'il a placée sous le signe de l'espoir et des rêves. Les réactions de quelques Américains avec Salwa Jafari.
All the nations of the world, friend or foe.
Donald Trump a prié ses compatriotes de croire en eux-mêmes, croire en l'avenir, une fois encore, en l'Amérique. Un ton optimiste qui plaît à ses supporters. Depuis Philadelphie, Brian Gallagher.
Générer des revenus et des emplois, c'est quelqu'un qui parle enfin de l'économie et des travailleurs américains. Qui a-t-il à critiquer?
Cependant, les Américains restent divisés sur la capacité de Donald Trump à tenir ses promesses. Les doutes de Pete Harwin ne sont pas dissipés.
Comment va-t-il construire l'infrastructure s'il réduit les impôts? Pour construire l'infrastructure, vous avez besoin d'augmenter les impôts sur les riches. C'est ainsi que ça marche.
Pendant une heure, Donald Trump a appelé au renouveau de l'esprit américain qui permettra, selon lui, de repousser la haine et le mal. Jeff Olson a apprécié le ton modéré du patron de la Maison-Blanche.
Je me serais senti beaucoup mieux d'entendre ce discours il y a 5 semaines. Nous sommes tous Américains. Nous voulons tous voir ce qui est mieux pour l'Amérique. Mais je pense qu'il y a un ton beaucoup plus unificateur dans ce qu'il a dit.
Les médias américains n'ont en tout cas pas été aussi critiques hier qu'ils l'ont été pour les dernières sorties médiatiques du nouveau président.
En France, le candidat de la droite à la présidentielle, François Fillon, a annoncé sa prochaine inculpation dans une affaire d'emploi présumé fictif impliquant sa famille, tout en assurant qu'il resterait candidat jusqu'au bout. La presse a révélé fin janvier qu'il avait embauché sa femme, Pénélope, et ses enfants au Parlement, leur versant au total des centaines de milliers d'euros de salaire. Une campagne pour interpeller les candidats et leur demander de présenter leur plan pour l'Afrique à moins de 2 mois du premier tour de la présidentielle en France a été lancée mercredi par l'ONG One, cofondée par le chanteur Bono. Cette ONG internationale lutte contre l'extrême pauvreté, essentiellement en Afrique. Les deux attentats suicides qui ont secoué Kaboul mercredi ont provoqué la mort de 16 personnes, selon un nouveau bilan beaucoup plus lourd que le premier, communiqué par le porte-parole du ministère afghan de la Santé. Le bilan fait par ailleurs état de 44 autres personnes blessées. Bombardement indiscriminé, armes interdites, boucliers humains, la bataille d'Alep en Syrie entre juillet et décembre 2016 a donné lieu à d'innombrables crimes de guerre commis par le régime et par l'insurrection, selon un rapport d'enquête tunisien publié ce mercredi. Un Palestinien a blessé mercredi à l'arme blanche un colon israélien qu'il a ensuite abattu dans le sud de la Cisjordanie. Territoire palestinien occupé par l'armée israélienne a indiqué cette dernière. Le Palestinien armé d'un couteau s'est infiltré dans l'après-midi dans la colonie israélienne de Ténèk au Marin et est entré dans l'une des maisons où il a agressé un civil, a dit l'armée. Le civil blessé a ouvert le feu et tué son agresseur, a ajouté l'armée israélienne. Et environ 400 000 colonies israéliennes mènent une coexistence souvent conflictuelle avec 2,6 millions de Palestiniens en Cisjordanie, territoire censé entrer dans la formation d'un futur État palestinien. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et sur voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Morgane Guiriec.
Côte d'Ivoire, Ali Darwish est poursuivi pour des arriérés de paiement à plusieurs cacaoculteurs dans le département d'Akoupé, indique la plainte du conseil Café Cacao. L'affaire qui a entraîné des manifestations sur la voie publique porte sur 1500 tonnes de cacao dont il ne se serait pas acquitté. Les liens qui unissent la France et la Côte d'Ivoire sont une opportunité pour le MEDEF. C'est en ces termes que Koulibaly Nankana, président de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, s'est exprimé lors d'une conférence devant une délégation du mouvement des entreprises de France. Il s'agissait pour lui de présenter aux hommes d'affaires français l'environnement des marchés publics en Côte d'Ivoire. Sache enfin que la Banque centrale populaire du Maroc et l'État ivoirien signent 2 conventions de plus de 113 milliards de francs CFA. L'accord vise à la modernisation des infrastructures routières et le renforcement du dispositif de soutien aux entrepreneurs du pays.
Une musique qui ne trompe pas, Nicolas Pineau est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Suite de la tropicale Amisa Bongo au Gabon.
Oui, la 3e étape entre Mounana et Koulamoutou, longue de 157 km. Et c'est le Biélorusse Stanislas Bascou de l'équipe Minsk Cycling Club qui remporte cette 3e étape devant un petit groupe d'échappés, comprenant notamment le Français Thomas Voeckler qui termine 4e, le Biélorusse qui s'empare également du maillot jaune de leader.
La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en Zambie.
Oui, dans le groupe A, ce mercredi, la Guinée n'a pu faire que match nul, 1-0 face à l'Égypte. Le Mali affronte la Zambie, le pays organisateur.
Victor Moses prolonge avec Chelsea.
L'international nigérian est désormais lié à Chelsea jusqu'en 2021. Cette saison, Victor Moses a marqué 3 buts lors de ses 25 matchs joués avec Chelsea. On rappelle que c'est un attaquant de 26 ans qui s'est révélé sous la direction d'Antonio Conte. Par ailleurs, il a remporté la CAN 2013 avec les Super Eagles.
NBA, championnat de basket nord-américain.
Washington, 3e de la conférence Est, a pris le dessus sur Golden State 112-108. Golden State, gros coup dur avec la blessure de Kevin Durant, l'un de ses joueurs vedettes, victime d'une entorse au genou gauche. Il sera absent pour une durée indéfinie, a annoncé ce mercredi son équipe. Victoire également de Charlotte face aux Lakers de Los Angeles. Victoire en prolongation de Détroit contre Portland, 120 à 113. Grosse victoire de Denver qui corrige Chicago, 125 à 107. Grosse victoire aussi pour Memphis qui domine Phoenix, 130 à 112. Enfin, résultat plus serré, mais victoire d'Oklahoma City contre Utah, 109 à 106.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui. On passe à présent au dossier du jour et on commence par les États-Unis. Discours du président Trump la nuit dernière devant les deux chambres réunies du Congrès à Washington. Le président américain a dévoilé sa vision pour le pays, emploi, sécurité, immigration. Pour une analyse, Idrissa Sedoudi a contacté Hermann Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines.
Il a parlé de tous les sujets brûlants pour les Américains, de tout ce qu'il a promis, et il a dit « je vais continuer à appliquer mes promis ». Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il est un président républicain avec beaucoup d'idées démocrates. Par exemple, il veut dépenser beaucoup d'argent pour réparer notre infrastructure. Ça, c'est une politique plutôt démocrate que républicaine. Il a parlé d'aide maternelle pour aider les mères avec les petits-enfants. Ça, c'est une politique démocrate et pas républicaine. Il veut réformer le système d'assurance santé. Et il a dit, nous devons réduire le prix des médicaments. Ça, c'est une politique démocrate. Parce que président Obama a voulu négocier les prix de médicaments parce que c'est le gouvernement américain qui est le plus grand acheteur. Et les républicains ont refusé.
Mais il veut se débarrasser de Obamacare.
Oui, il veut se débarrasser, mais il veut aussi le remplacer. Il a dit qu'il faut une assurance santé pour tout le monde qui est abordable et avec tout le monde qui est couvert. C'est-à-dire, si vous avez déjà une maladie, une société d'assurance ne peut pas refuser. Ça, c'était la politique.
Hermann Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. Le président Donald Trump a annoncé une augmentation substantielle, 54 milliards de dollars, du budget de la défense. Il a aussi dit qu'il réduira les dépenses à l'étranger pour investir dans les projets domestiques. Timothée Donangmaï a recueilli l'analyse de Brett Bruyen, président de la firme de conseil en communication stratégique Global Situation Room.
Il y a dans le Congrès certains membres qui voudraient augmenter le budget de défense, mais en même temps, il y a une majorité, surtout républicaine, qui ont toujours suivi une politique plus conservatrice en termes budgétaires. Et le projet que Trump vient de mettre sur le budget aura des difficultés à trouver de support parmi les membres du Congrès.
Le président Trump a dit que les États-Unis ont dépensé des milliers de milliards au Moyen-Orient alors que cet argent aurait pu être investi ici aux États-Unis. Qu'est-ce que cela signifie pour sa politique étrangère, notamment l'aide au développement?
Le président Trump cherche des retours sur les investissements que le gouvernement américain fait, on peut dire, immédiat en termes de compromis ou d'autres bénéfices économiques que le gouvernement américain pourrait présenter pour justifier ses engagements. Et ça, c'est vraiment une politique nouvelle pour les États-Unis parce qu'auparavant, il y en a des investissements pour le long terme parce que ces investissements, ils étaient nécessaires pour le développement de certaines régions du monde, soit l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale ou bien en Afrique.
Brett Bruyen, président de la firme de conseil en communication stratégique Global Situation Room à Alexandria en Virginie. En Afrique ou ailleurs, multiplication ces derniers temps des violences xénophobes en Afrique du Sud. Pretoria a expulsé 90 Nigérians. Qu'en pensent nos auditeurs? Eric Manirakiza s'est entretenu avec certains d'entre eux.
Moi, je dis que les violences à caractère xénophobe ou raciste, à l'instar de ce qui se passe en Afrique du Sud, est tout simplement inacceptable. C'est une terrible honte pour ce pays qui doit sa stabilité et sa démocratie au grand Nelson Mandela, qui a sacrifié, n'est-ce pas, l'essentiel de sa vie pour enterrer l'apartheid et la ségrégation raciale afin que règne l'unité dans une Afrique prônant l'intégration. Car il ne faut surtout pas exclure des actes de représailles dans les pays dont les ressortissants sont traqués à l'étranger comme des moins que rien, je m'excuse du terme, et adieu l'intégration africaine.
Omar Boulalé, NASA.
Il faut un changement de mentalité, c'est très important. Parce que le fait de s'entretier, le fait de créer d'hostilité à ceux qui sont venus à chercher le bonheur et l'espoir dans votre pays, ça pose problème, l'intégration africaine dont on cherche.
Benny Koutomissa.
Nous tous, on est des Africains, ils tuent des gens comme ça, ils massacrent des gens. J'ai vu des vidéos, ils sont en train de massacrer, de brûler des gens. Mais pourtant, nous, on a, moi, j'ai genre ma famille qui sont là-bas, parce que tout ma famille sont là-bas. Sauf que moi, je vois ça, ça fait pas bien de voir tout ça. Et maintenant, c'est arrivé un membre de ma famille qui posant un peu ça. Ça va être comment ?
Mamadou Barry.
Aujourd'hui, quand on voit des types d'Africains qui sont des étrangers africains aussi, comme les chasser dans leur pays, soi-disant comme argument que ces étrangers viennent leur prendre leurs emplois, c'est vraiment dommage.
Ben, vous parlez des Sud-Africains, mais ce ne sont pas tous les Sud-Africains, c'est une poignée de personnes.
Ce qu'on voit actuellement sur les médias, donc vraiment, ça nous dégoûte quand même, ça nous dégoûte vraiment. Il ne s'agit même pas de l'Afrique du Sud seulement, c'est dit à l'inconscience des Africains, sans quoi des Africains ne doivent pas chasser de vrais Africains aussi dans leur pays, étant donné qu'on est tous noirs et qu'on vit dans un même continent, c'est pas normal.
Abdelaziz Minungu.
Moi, je pense que la xénophobie, ça se passe partout, hein, surtout en Afrique ici.
Pourquoi ?
Des pays comme
Pourquoi
la Guinée équatoriale, le Gabon, même de nos jours, vous allez beau fouiller dans les prisons, rentrer dans les cellules, dans les commissariats, vous allez voir les Maliens, les Burkinabés maltraités, agressés. Ce n'est pas seulement en Afrique du Sud.
C'est donc très célestin depuis Mozambique. Moi, je suis un Congolais vivant au Mozambique, je travaille comme médecin. Ça me fait mal. Pourquoi ? Parce que chez moi, dans mon pays, moi, je suis originaire de la RDC. Dans la MONUSCO, il y a des Sud-Africains. Il y a des casques bleus Sud-Africains qui travaillent aux côtés de la MONUSCO dans mon pays. Pour moi, quand je vois les Sud-Africains, je les prends comme un libérateur, un homme de paix. Quand je vous vois, bon, je me réfère à ces casques bleus qui travaillent dans la MONUSCO dans mon pays. Alors, quand je vois mes amis congolais sauvagement assassinés, sauvagement tués en Afrique, moi, ça me fait très mal.
Réaction recueillie par Eric Manirakiza.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral, une ONG basée à Brazzaville, se dit vivement préoccupé par la situation des demandeurs d'asile de RDC déboutés par le Comité national d'assistance aux réfugiés. La DHUC a même adressé une pétition au président Denis Sassou Nguesso pour arrêter la vague d'arrestations dans les milieux de ces personnes vulnérables. De Brazzaville, le reportage de notre correspondant Gwela Ngousso.
Là où on m'avait arrêté, nous étions ensemble avec beaucoup de gens. J'ai trouvé beaucoup de nos compatriotes et nous sommes passés nuit avec beaucoup aussi de nos compatriotes. Et moi, on m'a laissé là au central. Ma femme était venue, le chef là a demandé à ma femme 100 000 pour que je libère ton mari.
Les témoignages sont les mêmes tous les jours de la part de ces demandeurs d'asile de RDC pris en charge par la police. Les femmes et les enfants ne sont pas épargnés.
Nous sommes des réfugiés de RDC. Nous avons été arrêtés et battus par la police dans les commissariats. Le HCR et le Sénat ne s'occupent plus de nous. Nous ne bénéficions plus de la protection de l'État à Brazzaville. Nous ne pouvons pas rentrer chez nous si le régime politique ne change pas à Kinshasa.
Il y a un militaire qui m'a demandé si je suis de quelle nationalité. Je me suis présenté et il m'a dit... Justement, on est venu ici pour vous.
On doit vous arrêter et vous faire repartir dans votre pays. Pourquoi vous êtes ici? Vous traînez ici, pourquoi? Moi, j'ai de papier, je suis réfugié. Oh, ici, il n'y a pas de réfugié parce que la RDC est dans les calmes. Il n'y a pas de guerre là-bas.
Il s'agit en fait des exilés politiques et de certains ex-soldats du maréchal Mobutu qui ne sont pas prêts à rentrer chez eux.
Notre pays, vous connaissez le problème qui se passe. Et nous, les ex-FAS, jusqu'à présent, il n'y a pas une décision pour nous. Si tu arrives au pays à partir de Beach ou à partir de ton quartier, tu es à lever pour aller détruire. On t'abat et c'est fini. Je laisse mes enfants et je laisse ma femme dans l'ignorance.
Le Comité national d'attribution des statuts de réfugiés, un organe officiel, ne souhaite toujours pas s'exprimer sur la question. Ici, les demandeurs d'asile ont déjà été déboutés. Ils doivent rentrer chez eux. La Duc, une ONG locale, recueille depuis un moment les cas de ces personnes. Luamba Moké, on est son président.
Lors de notre première conférence, il était près de 1500. Donc nous, on avait demandé au gouvernement de regarder ces situations. Et même malheureusement, le gouvernement ne nous a pas encore répondu jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes surpris que cette opération puisse être relancée. Et la plupart, ce sont les demandeurs d'asile qui ont été déboutés. Est-ce que ce n'est pas un fait exprès du ministère des Affaires étrangères qui a reçu la liste de la DUC?
Ces demandeurs d'asile vivent désormais dans la peur, galvanisés par la rumeur selon laquelle début mars reprendra l'opération Bataille Bakolo, ayant constitué en 2014 à l'expulsion de plusieurs ressortissants des RDC en situation irrégulière à Brazzaville. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Dans Washington Forum ce jeudi, Cameroun, le malaise anglophone. Des rassemblements violemment réprimés par les autorités qui ont interdit de manifester. Internet coupé et l'arrestation de trois leaders de la contestation. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, la minorité linguistique s'estime lésée. Que veulent les Camerounais anglophones? Le dialogue avec le gouvernement est-il dans l'impasse? Quelle unité du pays après 34 ans de Paul Biya au pouvoir? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Dans la nuit du 27 au 28 février, le groupe islamiste Ansarul Islam de Malam Diko a attaqué deux commissariats des villes de Tongo Maël et Baraboulé au nord du Burkina. Ces attaques interviennent au moment où la fête du cinéma bat son plein à Ouagadougou. Quels sont les sentiments des festivaliers? Suivons ce reportage de Zoumana Onogo à Ouagadougou.
Le théâtre des opérations est certes loin de la capitale Ouagadougou où se déroule le FESPACO. Mais quel effet ces attaques ont sur les festivaliers? Suivons ce vox pop.
L'année passée, j'ai vécu même l'attaque le 15 janvier. C'était tout proche de l'attaque. Mais la situation n'est pas la telle que je ne peux pas venir au Burkina. Ce n'est pas une zone de guerre. Et on ne doit pas se faire intimider de ce terrorisme.
On voit que sur le site du FESPACO, la sécurité s'est renforcée. À l'entrée, aux alentours, les contrôles se sont renforcés. Donc nous, on a confiance, on est là. On est totalement confiant que cette cérémonie-là va bien se passer, bien se terminer. Aucune peur, franchement.
Cela m'effraie de façon générale et permanente, pas seulement au Burkina, mais dans tout le continent. Il faut qu'on fasse très attention. Je crois qu'il faut d'abord prendre conscience de la menace. Ensuite, il faut jamais céder. Face à ces menaces, l'humanité doit exister et trouver les tactiques et les stratégies qu'il faut pour combattre ça.
Ça fait un peu peur, mais il faut vaincre la peur.
Je pense que ça ne devrait pas nous effrayer parce que c'est des gens qui ont besoin qu'il y ait la terreur, que les populations aient peur et qu'il n'y ait pas ce genre d'activité qui permettent l'intégration africaine.
Nous avons rencontré le commissaire Marcel Paré. Il est le responsable de la sécurité du FESPACO pour savoir les dispositions prises pour rassurer davantage les festivaliers. Voici ce qu'il a dit.
Je dis toujours qu'il n'y a pas de risque zéro, mais ce qui est arrivé, je crois que nous le prenons positivement. En ce sens qu'il nous alerte et ça nous permet de nous mobiliser davantage, de ne pas dormir sur nos lauriers parce que de croire que le dispositif qu'on a mis en place et peut répondre. Donc c'est une alerte que nous prenons au sérieux. Nous demandons à tout un chacun de nous apporter toute aide, toute information parce que autant que nous sommes, chacun est un acteur de sécurité. Et je souhaite donc de la presse au festivalier que les gens soient rassurés. Mais qu'ils ouvrent l'œil et chaque fois qu'ils peuvent nous apporter des informations, qu'ils n'hésitent pas. Je rappelle le 10-10, le 17, de 16, ils peuvent appeler. En tout cas, nous avons mis en place un dispositif qui répondra 24h/24.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise en onde par Joselle Morissin, assistée de Sims. Nachwan Kale était à la console. Présentation John Lyndon, merci pour votre fidélité au programme de VOA Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.